Donc c'est un grand plaisir que d'accueillir ce soir Wolfgang Wernsdorfer pour un voyage dans le nanomonde des aimants et vers une spintronique moléculaire. En fait, on y est presque déjà dans la spintronique moléculaire. Wolfgang Wernsdorfer a fait ses études à l'université de Würzburg. Il est allemand. Il est rentré à l'ENS de Lyon, École normale supérieure de Lyon. C'est ces lieux où on forme et de bons esprits, des esprits talentueux, à l'ENS de Lyon. Et il a rejoint Grenoble en 1993 comme étudiant de deux grands scientifiques que sont Alain Benoît et Bernard Barbara. Il est entré au CNRS en 1996 et est devenu directeur de recherche au CNRS en 2004. Il est l'un des leaders de l'étude du magnétisme à l'échelle nanométrique et plus généralement de la nanophysique. Il a développé, pendant sa thèse et ensuite, un instrument extraordinaire, c'est un magnétomètre qui mesure des aimantations, qui s'appelle le micro-squid, qui est passé notamment à la postérité pour sa première mesure de retournement de l'aimantation. Vous allez voir qu'on va retourner souvent des aimantations ce soir, d'une nanoparticule, une seule particule unique de cobalt, constituée d'environ 1000 atomes, et c'est mesurable, et Wolfgang Wernsdorfer l'a mesuré. Il a ensuite appliqué cet outil tout à fait exceptionnel à l'étude du retournement progressif de l'aimantation par effet tunnel quantique dans des molécules magnétiques dont il va nous parler ce soir. Il a passé un autre stade en concevant et en réalisant le nanosquid. Un nanosquid. C'est un pionnier de la spintronique moléculaire. Comme vous pouvez l'imaginer, il a écrit de nombreux articles dans des revues internationales aussi prestigieuses que Nature, Nature Materials, en faisant souvent la couverture, Nature Nanotechnology, Science, etc. Il a également reçu de nombreux prix et distinctions. Même si sa modestie va en souffrir, je vais en citer deux. Le prix Agilent Technologies de la Société européenne de physique en 2002, en compagnie de quatre autres prestigieux physiciens, Roberta Sessoli, que nous verrons lundi, M. Friedman, M. Barbara et M. Gateschi. Et puis, plus récemment, il a reçu le premier prix international Olivier Kahn, qui commémore et qui célèbre la mémoire de notre collègue Olivier Kahn, trop tôt disparu. Prix créé par le réseau d'excellence MagmaNet, dont le coordinateur Dante Gateschi nous fait l'amitié d'être ce soir dans la salle. Voilà. Il fait partie de ces jeunes scientifiques européens qui construisent la science d'aujourd'hui. Et pour cela, il bénéficie notamment, comme c'est indiqué ici sur ce transparent, d'un contrat avec l'European Research Council. C'est un contrat non négligeable et il y a très très peu de jeunes scientifiques en Europe qui l'ont obtenu. Je vous demande d'accueillir Monsieur Wolfgang Wernsdorfer.
Merci beaucoup pour cette introduction de Michel Verdaguer. Merci d'être venu ce soir pour cet exposé. Je vais tout d'abord essayer de mettre mon exposé en perspective avec les autres contributions que vous avez déjà vues et que vous allez encore voir. Donc pour ça, je vous montre ici une échelle de taille qui va d'échelle très grande comme la Terre à une échelle de nanomètres à droite. Donc, vous avez déjà écouté différents exposés. Par exemple, tout au début, il y avait un exposé sur l'histoire du magnétisme, donc un peu sur toutes les échelles. Après, vous avez écouté un exposé sur le magnétisme terrestre, sur les roches, sur le magnétisme dans la vie quotidienne. Et après aussi sur des nanoparticules. Donc là, on devient déjà un peu plus petit. Et sur le cerveau un peu plus grand. Et après, hier, on a eu un exposé d'Albert Fert, notre prix Nobel de physique 2007, qui a parlé de la spintronique. Et donc, mon exposé, quelque part, il s'insère ici, dans cette série d'exposés à droite de votre image. Donc, on va ici discuter quelque chose qui est beaucoup plus petit que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Et donc, il y aura des parallèles par rapport aux autres exposés. Par exemple, le nom déjà se ressemble. On va appeler ça la spintronique moléculaire. Donc, ça se ressemble un peu avec ce qu'Albert Fert a montré hier. Et on va parler de nanoparticules, on va parler de magnétisme. Donc, si au cours de cet exposé, en particulier plus tard sur l'Internet, si vous rencontrez des problèmes de compréhension de cet exposé, je vous conseille en particulier d'écouter Dominique Chivore qui a parlé de magnétisme dans la vie quotidienne, parce qu'au début de son exposé, il a très bien introduit les bases de magnétisme qui sont un peu nécessaires dans cet exposé. Donc je ne peux pas vous re-raconter ces bases parce qu'on veut essayer d'aller un peu plus vers le futur du magnétisme. Donc ça va parfois se compliquer un petit peu. Par la suite, il y aura encore un exposé sur les capteurs magnétiques, un exposé sur l'enregistrement magnétique, et à la fin, il y a un exposé de Roberta Sessoli et Michel Verdaguer qui va aussi se ressembler un peu à mon exposé parce qu'il va aussi parler des molécules magnétiques. Donc à nouveau, cet exposé peut vous aider de comprendre éventuellement un peu mieux ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Donc, on va commencer avec une petite modification. Ici, sur cette échelle de taille, on met le nanomètre, le mètre. Le mètre, c'est une longueur, donc ça se comprend facilement si le système est grand ou petit. Mais si on veut discuter des systèmes petits, l'unité de mètre, ou le nanomètre après, il n'est pas vraiment l'unité qui est très intéressante. Il y a une autre unité qu'on utilise. Et cette unité, c'est plutôt le spin. Donc, je vais apporter ce soir un spin pour vous. Et je remercie Laurent qui l'a fait. Donc, on va utiliser ce spin ce soir pendant mon exposé. Donc, vous voyez ici maintenant une autre échelle de taille qui a l'unité le spin. Alors, ce qui est pour moi le spin, c'est la somme de tous les moments magnétiques dans votre structure. Si vous avez une structure très grande, comme un aimant permanent, eh bien, vous avez un grand nombre de moments dans votre structure. Et dans ce cas-là, on ne discute pas le magnétisme en termes de moments individuels, mais plutôt au niveau des domaines où les moments sont bien rangés et ces domaines sont séparés par des parois de domaines. Si vous coupez maintenant un tout petit morceau de cet aimant permanent, eh bien, on a une nanoparticule, par exemple, qui a 10 nanomètres. Et dans ce cas, la structure est tellement petite qu'on ne peut plus mettre une paroi de domaine. Donc, à ce stade-là, on commence de parler d'un macrospin. Si vous réduisez encore plus la structure, eh bien, par exemple, jusqu'à 3 nanomètres, hein, donc là, vous arrivez à peu près à 1000 atomes. Dans ce cas, on parle toujours d'un macrospin, donc un monodomaine, mais les moments magnétiques à la surface commencent à gouverner le magnétisme, en particulier les propriétés comme l'anisotropie magnétique. Et si vous coupez là-dedans encore un petit morceau, eh bien, vous avez quelques spins. Et dans ce cas-là, c'est la physique quantique qui va intervenir, qui va commencer à gouverner fortement les propriétés magnétiques. Donc, ce soir, on va, comme Michel l'a déjà dit, on va discuter essentiellement le retournement de l'aimantation. Donc, si vous êtes à une échelle très grande, si vous voulez retourner un aimant, vous appliquez un champ magnétique opposé à son aimantation. Si le champ est suffisamment grand, vous nucléez des petites parois qui se propagent après et qui retournent toute l'aimantation. Si la structure est plus petite, comme les nanoparticules, eh bien, dans ce cas-là, l'aimantation peut se retourner avec des modes très particuliers. Et ce soir, on va discuter essentiellement le mode le plus simple, qui est la rotation uniforme de tous les moments qui se trouvent dans la structure. Et si la structure est encore plus petite, après, on a la physique quantique qui peut retourner l'aimantation par l'effet tunnel, par exemple. Dans ce cas-là, vous allez voir, ça vient assez particulier pour retourner le spin. Donc la partie qui était déjà exposée dans les autres, exposée essentiellement, on appelle souvent le magnétisme classique. Il est gouverné par la théorie des micromagnétismes et une équation très connue, l'équation Landau-Lifshitz-Gilbert, qui décrit la dynamique de l'aimantation. Et eh bien, pour les structures plus petites, on parle plutôt de magnétisme quantique. Et là, c'est l'équation Schrödinger, le formalisme des opérateurs ou des intégrales du chemin qui sont très importants pour décrire le retournement. Donc, ce soir, on va se limiter à des petites échelles de taille qui commencent à peu près à 1000 atomes. Donc, notre vecteur, ce soir, le plus grand va être autour de 1000. Et après, on va regarder qu'est-ce qui se passe si cette vecteur devient plus petit, jusqu'à 10 ou plus petit. Donc, on va essayer de distinguer entre ces deux comportements qui vont être tout à fait différents. Et pour ça, on va prendre deux systèmes modèles qu'on va discuter. Donc, vous voyez à droite, en haut, une nanoparticule de 1000 moments. Donc, on va discuter ça. Ça va être la physique classique. Et après, on va faire la même chose à gauche, sur des molécules, où vous allez voir la physique quantique. Donc, on va commencer avec ces particules. D'abord, le monde classique. Alors, vous voyez ici un cliché de diffraction en transmission de nanoparticules. Donc, ce que vous voyez là, vous voyez des petits points blancs. Ça représente des atomes qu'on voit en transmission. Et donc, vous voyez une certaine forme qui a des facettes. Si vous regardez bien, vous avez des facettes autour de cet objet. Donc, ça, c'est une coupe d'une particule. Si on fait un petit modèle, on a plutôt cette forme que vous voyez maintenant à droite, qui est donc une sorte d'octaèdre tronqué. Donc, ça, c'est notre particule. Cette particule contient à peu près 1000 atomes. Et on va discuter cette particule de manière très simple. On va faire une approximation. On va dire que tout le moment magnétique de cette petite particule se couple ensemble par couplage de change très fortement. Et ce couplage est tellement fort qu'on peut faire une approximation de dire que cette particule va se comporter comme un grand vecteur, un grand spin 1000. Donc, on va se limiter à cette description d'une spin 1000. Pour les questions, après, on peut s'éloigner de cette approximation si vous voulez. Pour les molécules magnétiques, on va faire un peu le même genre d'approximation pour tenir cet exposé simple. Donc, on va prendre des molécules qu'on appelle maintenant des molécules aimants. Donc, c'est des macromolécules qui sont 100 à 1000 atomes. Et au centre de ces macromolécules, on a quelques ions magnétiques. Par exemple, les molécules que vous voyez en milieu qui se tournent, souvent dans le jargon, on appelle ça un manganèse 84. Donc, là-dedans, c'est une grande molécule de 1000 atomes à peu près. Et à l'intérieur, vous avez des boules vertes. Ce sont des manganèses, il y a 84 manganèses dedans qui se couplent d'une certaine manière ensemble. Donc les chimistes, depuis les dernières 10 ans, une dizaine, plus que 10 ans maintenant, ils ont fait un grand nombre de ces différentes molécules avec différentes propriétés qu'on a étudiées de différentes manières. Et ce soir, on va se limiter à une seule molécule pour à nouveau tenir cette discussion assez simple. Et les molécules que je choisis pour vous ici, on va l'appeler ferrite. Alors, faire vite, parce que dans cette molécule, vous avez 8 atomes de fer, qui sont des boules jaunes ici. Donc, ces boules jaunes et sont des fers. Donc, le fer est dans l'état oxydation 3+. Ça nous ramène à une spin 5,5. Donc, les spins 5,5 qui se trouvent sur le fer, maintenant, ils sont couplés ensemble à travers ce qu'on appelle le super-échange, à travers les ponts qui vont à travers les oxygènes. Les boules rouges, c'est des oxygènes. Donc les spins qui sont à l'intérieur de la molécule se couplent ensemble. Et par des différentes techniques, on sait que 2 spins vont être vers le bas, 6 sont vers le haut, couplés fortement ensemble. Donc on va à nouveau faire une approximation de dire que, pour ce soir au moins, cette molécule se comporte comme un seul vecteur S égale 10. Donc on va discuter cette molécule qui a beaucoup de richesse, seulement au niveau de cette vecteur 10. Et comme j'ai dit en question, on peut éventuellement s'éloigner de cette approximation. Donc, on a nos deux candidats pour ce soir, la particule classique de 3 nanomètres et la molécule fer-10 qui est à peu près 1 nanomètre. Donc, vous voyez déjà que la différence 3 nanomètres, 1 nanomètre, ce n'est pas tellement la taille qui est importante, c'est le spin. C'est 1000, une spin 1000 ou une spin 10. Et vous allez voir que, dépendant de ça, le comportement est très différent. Alors, pour décrire d'abord la particule classique, donc le spin 1000, on va utiliser un modèle qu'on appelle le modèle de Stroner-Wolfhardt, un modèle qui est très vieux, qui a bientôt 60 ans, que Stroner-Wolfhardt ont découvert et Pour les Français, je peux dire que Naël l'a découvert avant, mais il a publié ça dans un journal qui n'était pas trop connu. Donc, cette modèle Stoner-Wolfhard suppose que, ce qu'on a déjà fait, que tous les moments dans notre structure sont couplés ensemble pour faire un macrospin, et après, cette macrospin peut se tourner. Et il ne peut pas se tourner librement parce qu'il voit une anisotropie. Donc, une anisotropie magnétique qui vient de la forme du cristal ou de la surface de la particule. Cette anisotropie va stabiliser deux directions de cet vecteur, soit vers le haut, soit vers le bas. Et entre les deux positions, vous avez une barrière d'énergie que vous voyez à droite de l'image. Donc, si maintenant vous appliquez un champ magnétique, et ça c'est possible à l'aide de l'énergie Zeeman, un des deux états, si j'applique un champ opposé, un des deux états devient métastable. Et le modèle dit que mon spin se retourne au moment où la barrière entre les deux états s'annule. Et donc à ce moment-là, le système se retourne. Donc tout simplement, on applique un champ magnétique, on réduit la barrière d'énergie et le système se retourne au moment où la barrière est zéro. Donc ça, on peut exprimer en termes d'une cyclhystérésis. Donc dans ce cyclhystérésis, on va tracer l'augmentation de cette vecteur, projeté suivant la direction du champ appliqué. On va tracer cette augmentation en fonction du champ magnétique appliqué. Donc si on fait ça pour cette particule-là, et on applique le champ exactement perpendiculaire à l'axe facile d'augmentation, eh bien le moment reste stable jusqu'au moment où il se retourne, et il se retourne à un champ d'anisotropie. Donc notre cycle d'hystérésis est complètement carré, comme vous voyez sur cette image. Si on applique maintenant un champ magnétique à un certain angle, eh bien mon vecteur peut tourner un peu avant qu'il se retourne de manière irréversible. Donc c'est un peu comme une boussole. Un boussole, on applique un champ magnétique, elles peuvent se tourner. Sauf que dans ce cas-là, dans une boussole, c'est tout l'aimant qui se retourne. La boussole, c'est un aimant, donc physiquement, elle se retourne. Dans ce cas-là, c'est que le spin magnétique qui se retourne, bien sûr. Donc, si je fais par exemple à 10 degrés, mon cycle d'hystérésis commence à s'arrondir parce que j'ai une petite rotation avant qu'un retournement irréversible. Donc, si j'augmente l'angle de champ appliqué, eh bien, le cycle d'hystérésis se déforme et je trouve un minimum de champ de retournement à 45 degrés. Donc, si j'applique mon champ magnétique à 45 degrés, c'est le plus facilement de retourner l'augmentation. Si j'applique un angle encore plus fort, après, le champ de retournement augmente à nouveau. Donc, ce que Stoner-Wolfhard a fait, ils ont tracé, par exemple, le champ de retournement qui nous intéresse ce soir en fonction de l'angle de champ appliqué. Et ceci est tracé ici à droite en fonction avec des coordonnées polaires. Donc tous les angles, de 0 degré à 360 degrés, vous voyez les champs de retournement et vous voyez cette forme typique qu'on appelle un astroïde. Donc ça, c'est l'astroïde de Stoner-Wolfhard qu'ils ont calculé à l'époque. Et cet astroïde va complètement décrire l'anisotropie magnétique de mon aimant. Et de manière étonnante, entre le moment où ce modèle était fait et l'était utilisé à droite à gauche en magnétisme, il a fallu quand même 50 ans avant que quelqu'un a pu mesurer cet astéroïde sur une seule particule, ici avec une spin 10 par exemple. Donc cette mesure, vous voyez ici sur l'image, et cette mesure était faite à très basse température. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade-là, le modèle il a négligé la température. Parce que la température peut aider le retournement, donc le modèle, pour vérifier le modèle, il faut refroidir. Si on chauffe maintenant un peu mon aimant et on fait la même mesure de ce champ de retournement en fonction de l'angle du champ appliqué, eh bien, vous voyez que cet astéroïde devient plus ou plus petit. Par exemple, à 4 Kelvin, il devient déjà très petit. À 12 Kelvin, il a presque disparu. Et à 14 Kelvin, on n'a plus d'astéroïde Stoner-Wolfhard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va dire que l'activation thermique est tellement forte que cette activation thermique retourne l'augmentation. Donc le système devient supapara. On parle de supaparamagnétisme. Et je réfère à nouveau à l'exposé de Dominique Chivor qui a expliqué ces détails-là. Donc à ce stade-là, cette particule est supaparamagnétique à l'échelle d'une seconde à 14 Kelvin. Donc si vous voulez stocker l'information dans votre ordinateur avec ce type de particules, vous perdez ça très vite parce qu'à 300 Kelvin, cette particule va fluctuer très très vite. Donc ça, c'est notre système classique. Donc pour résumer, le système classique, un cycle d'hystérésis qui est assez carré, qui est caractéristique par ce retournement brusque de l'alimentation. À droite de cette image-là, maintenant, vous voyez ce qui fait une spin 10. Donc, une spin 10, comme je dis, vous allez voir s'il est quantique. Et si vous regardez son cycle d'hystérésis, vous voyez tout de suite que le comportement est bien différent. Vous avez tout à coup un cycle d'hystérésis avec des marches, donc plus un seul genre de retournement bien défini, mais des marches assez arrondies. Et en fonction de la température, la hauteur des marches varie très fortement. Donc par la suite, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le cycle d'hystérésis de cette molécule se comporte de cette manière-là. Donc, il faut qu'on complique un peu l'affaire. Si on veut décrire un système quantique, il faut pas seulement une fonction d'énergie, mais il faut un Hamiltonien. Dans ce cas-là, un Hamiltonien de spin. Donc, le Hamiltonien de spin que vous voyez là, il a à nouveau deux termes. Le premier terme va décrire à nouveau l'anisotropie magnétique. C'est-à-dire que cette anisotropie va stabiliser le spin soit vers le haut, soit vers le bas. J'ai ajouté une deuxième partie de cette anisotropie qui commence avec E, SX carré. Donc, ce terme-là va nous dire un axe difficile. Donc, aujourd'hui, X est vers vous, Z est vers le haut. Donc, l'axe difficile est vers vous. Donc, c'est un axe difficile. Donc, ça va être très, très difficile de tourner le spin vers vous. Donc, l'axe Y, après, la troisième dimension, va être un axe difficile, moyennement difficile. Donc, ça, c'est l'anisotropie magnétique de cette Hamiltonien qu'on a besoin. Et à nouveau, on a l'énergie du champ magnétique appliquée, l'énergie Zeeman. Maintenant, on a un spin quantique. Alors, un spin quantique, il est quantifié en amplitude, c'est-à-dire on n'a que des valeurs très discrètes de spin, mais aussi en position. C'est-à-dire qu'un spin S, il a 2S plus 1 états d'énergie, donc 2S plus 1 états d'orientation, et pas plus. Donc, on n'a plus un vecteur comme avant dans le monde classique, on peut tourner ça de manière continue. Un spin classique, quantique, il a différentes directions très discrètes. Donc, pour notre spin 10, on a 21 directions. Si on trace maintenant l'énergie de chaque état en fonction de son nombre quantique m, qui va pour nous de moins 10 à plus 10, si on fait ça, on décrit une parabole, comme vous voyez sur l'image. Cette parabole vient de l'anisotropie, c'est le premier terme d'anisotropie en haut, avec SZ carré. Donc, à gauche, moins 10, ça veut dire que le spin est vers le bas. Donc ça, c'est l'état fondamental. Et plus 10, c'est à droite de l'image, le spin vers le haut. Et les autres états d'énergie, on peut le voir en manière semi-classique comme une précession de ce spin. Donc là, il y a donc 19 états de précession au-dessus de l'état fondamental. Si maintenant, vous prenez cette énergie-là et vous tracez l'énergie en fonction du champ appliqué suivant Z, vous arrivez à ce qu'on appelle un diagramme Zeeman. Donc, vous voyez que certaines énergies baissent si on applique un champ magnétique, donc c'est des lignes qui vont vers le bas, et d'autres augmentent. Si ça baisse en énergie, bien sûr, c'est des états d'énergie qui sont stabilisés par le champ appliqué. S'ils augmentent, ils sont déstabilisés. Donc, si vous avez des lignes qui descendent, des lignes qui montent, vous avez des croissements. Alors, croissement, ça veut dire quoi? Si je suis en pile-poil sur un croissement des lignes là, ça veut dire que mon système quantique a deux états qui ont la même énergie. Classiquement, bon, on peut toujours avoir des systèmes classiques qui ont deux états d'énergie pareils, on appelle ça une dégénérescence, il n'y a rien de spécial qui peut se passer. Dans le monde quantique, c'est une dégénérescence, il faut le prendre avec des pincettes, parce que souvent, la dégénérescence est levée. Et en effet, si on fait un zoom sur ces croissements, on voit que il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Les lignes là ne se croisent pas complètement. Donc ça, c'était discuté déjà il y a très longtemps, l'année 30, par Landor et Zener, Stückelberg, qui ont discuté un peu ce qui se passe au niveau de ce croissement de deux états. Et en effet, par exemple, ils ont calculé que si je mets mon état quantique, mon système, dans un des états quantiques, à gauche, avec probabilité 1, ils ont calculé la probabilité de trouver, après les systèmes à droite, soit en haut ou en bas. Et cette formule va dépendre de cette splitting que vous voyez entre qui écarte ce croisement, qui fait que ça ne touche pas complètement. Cette splitting ou cette gap, on appelle le splitting tunnel. Plus que cette splitting est grand, plus l'effet tunnel est grand. Donc, ils ont calculé la probabilité P de trouver le système après soit en bas, en haut. Et si vous regardez bien, si on est d'abord à gauche, on est dans un état SM. Et si vous allez à droite, en bas, vous avez SM', donc vous avez changé l'état. Et ça, on va appeler l'effet tunnel parce que le système est passé d'un certain état à un autre état. Donc, cette probabilité va dépendre de ce splitting. Delta, il va aussi dépendre de la vitesse des balayages de champ qu'on va choisir pour aller de gauche vers la droite. Donc vous voyez dans cette formule en bas la vitesse dH dt. Donc il va dépendre de cette vitesse. Si on balaye le champ magnétique appliqué en manière adiabatiquement lentement, c'est-à-dire très très lentement, le système quantique va suivre l'état, l'énergie qui est en vert. C'est cette graphique en gauche, vous voyez un état en bas qui est en vert. Donc le système quantique va rester tout le temps dans cet état-là. Alors qu'est-ce que c'est? Si on est à gauche de cette courbe verte, on a le spin par exemple vers le bas, et à droite, le spin est vers le haut. Qu'est-ce qui se passe si je suis pile poil au milieu de cette figure? Et en fait, ce qui se passe, on a un mélange entre un up and down, donc le spin n'est ni en bas ni en haut, il est mélangé, il a un mélange courant entre haut et bas. Donc si je balaye maintenant mon champ magnétique de gauche vers la droite, le système, en fait, il se mélange. Il va d'un état pur vers le bas, par exemple, à un état pur vers le haut, à travers un mélange. Donc si je balaye mon champ magnétique appliqué un peu plus rapidement, le système quantique n'a pas le temps pour se mettre dans cet état mélangé. Et donc je ne trouve qu'une probabilité de soit me trouver après en bas, soit en haut. Je ne peux pas être ailleurs. Le système quantique, il n'y a pas d'autre position. Donc cette probabilité a été décrite par Landa Zener. Donc ce que vous avez appris maintenant, la dernière deux transparents, c'est qu'on a ce diagramme Zeeman avec tous les niveaux et qu'on a cette probabilité de fait tunnel décrite par Landa Zener. Et ça va maintenant appliquer à notre molécule S égale 10, donc le faire vite. Le Hamiltonien, je l'ai déjà présenté. Donc le diagramme Zeeman, vous avez déjà vu. Donc c'est toutes ces lignes-là. J'ai numéroté les différents numéros, les différentes lignes par les nombres quantiques. Donc, de moins 10, moins 9, etc. À gauche, vous avez plus 10, 9, 8, etc. Et au-dessus, je vous montre les cycles hystérésis qu'on voulait décrire. Donc, ça, c'est un cycle hystérésis mesuré sur un ensemble des molécules identiques à très basse température, 40 millikelvin. Donc, on va négliger toutes sortes d'activations thermiques. On va se trouver donc toujours dans le fondamental du système. Donc on va commencer à gauche de l'image. Donc à gauche, dans le cycle hystérésis, on a une aimantation moins 1, c'est normalisé. Donc ça veut dire que tout mon molécule, son aimantation, une spin qui est vers le bas. Maintenant, je balaye mon champ, donc j'ai appliqué un champ magnétique très fort négatif pour avoir cet état-là. Donc maintenant, je vais diminuer le champ et je vais aller vers champ nul. Donc, jusqu'au moment où j'arrive à champ nul, dans le diagramme Zeeman, j'ai une droite. Donc, ça veut dire que l'aimantation reste constante. Donc, rien de spécial peut se passer. Mais dès que j'arrive à champ nul, j'ai un croissement de ces deux lignes. Donc, j'ai l'état moins 10 se croise avec l'état plus 10. Donc là, maintenant, Landa Zener va me dire que j'ai une probabilité d'effet tunnel de retourner mon spin. Et cet effet tunnel va dépendre de la vitesse. C'est pour ça, en haut, je montre quatre cycles hystérésis qui ont été mesurés à différentes vitesses de balayage de champ. Donc, si en rouge, on balaye le champ très vite, 140 millitesla par seconde, vous ne voyez rien. Cette alimentation reste à cet endroit constant. Donc, rien ne se retourne. Mais si je balaye plus lentement, en violet, vous voyez une petite marche. Ça veut dire que quelques molécules s'est retournées par effet tunnel. Celles qui sont retournées maintenant sont dans l'état fondamental. Ils sont contents là. Donc rien de spécial peut se passer pour eux. Mais les autres sont dans un état excité. Mais ils ne peuvent pas s'échapper là. justement, il arrive au prochain croissement du niveau. Donc, si j'applique un champ plus grand et on arrive à le prochain croissement du niveau, on a un état moins 10 qui se croise avec 9. Et à cet état-là, à cet instant-là, le système peut maintenant passer par effet tunnel de moins 10 vers 9. À nouveau, ça va dépendre de la vitesse de balayage du champ. Donc, vous voyez les marches dans les cycles hystérésis qui sont plus ou moins grands, dépendant si on balaye lentement ou rapidement. Donc, dès qu'on a passé de moins 10 à 9, le système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé de l'état fondamental ici vers un état 9 de l'autre côté, mais ça, c'est un état qui n'est pas fondamental. Donc, après, le système peut émettre un phonon pour tomber dans son état fondamental. Et ça, c'est la flèche bleue que vous voyez. Donc, dès qu'on retourne le spin par effet tunnel en champ non nul, on crée des phonons après l'effet tunnel. Donc, ça, c'est les flèches. Et donc, si on continue maintenant le champ à plus ou plus fort, eh bien, chaque fois qu'on arrive à un croissement, eh bien, on voit une relaxation du système par effet tunnel. Donc, chaque fois, ça fait une marche sur le cycle hystérésis. Juste comment tous les spins sont retournés. Donc là, vous voyez les premières choses très particulières. Pour un système classique, pour retourner le spin à champ nul, à température nulle, il fallait appliquer un champ magnétique qui est égal à le champ d'anisotropie pour le retourner. Si j'ai un système quantique à champ nul, je peux le retourner. Il peut se retourner par effet tunnel sans mettre en énergie. Alors, à quoi ça sert? Si vous regardez, par exemple, dans un ordinateur actuel, vous voulez retourner les bits pour stocker l'information, etc. Et pour ça, il faut appliquer une certaine énergie pour chaque fois retourner l'information. Et si vous réduisez la structure de plus en plus petit, vous avez un chauffement local qui devient plus en plus critique. Et ça, c'est un problème majeur dans la technologie actuelle. C'est le chauffage local dans le compensé. Dans ce cas-là, je peux retourner mon système sans appliquer une certaine énergie. Donc, le système ne dissipe pas à champ nul. Donc, je peux retourner mon spin à champ nul si je veux. Donc, c'est quelque chose de particulier dans le monde quantique. Par la suite, je vous montre une autre particularité de le monde quantique. Et avant que je commence ça, je veux vous rappeler rapidement le fond de Young. Alors, fond de Young, c'est on a une sorte de cache avec deux trous et on envoie une lumière courante avec un laser sur ces deux trous. Et donc, on a un peu de lumière qui va traverser ces deux trous. Et après, derrière, on a un écran qu'on récolte les photons. Et ce qu'on voit, si on fait une telle expérience, on voit une sorte de figure de diffraction sur l'image derrière. Donc, ça, c'est dans les cours élémentaires en physique, on apprend ça. Maintenant, si vous faites la même manip analogue avec de l'eau, vous faites des vagues dans l'eau, ça frappe une petite barrière avec deux trous, eh bien, vous avez une petite vague qui traverse les trous, et à la fin, ça fait une image de diffraction, et ça ressemble beaucoup à ce que vous faites avec les photons. Mais la partie curieuse maintenant, c'est que si on envoie les photons en manière individuelle, donc pas une vague, mais toujours un seul photon contre cette barrière, on a une certaine probabilité classique que ça passe dans un trou ou dans l'autre trou. Mais si on fait cette expérience-là avec des photons, un par un, on réalise que finalement, sur l'écran derrière, je vois aussi une image de diffraction. Alors comment ça peut se faire si les photons passent dans un trou? Elles peuvent seulement faire une tache en haut, si ça passe dans un trou en bas, ça fait une tache en bas. Alors comment on peut avoir quand même une image de diffraction? Eh bien, c'est la physique quantique qui explique ça. En fait, les photons, il a la particularité qu'il peut passer dans les deux trous en même temps. Et cette probabilité de passer dans les deux trous est à faire. Et à la fin, on trouve quand même une image de diffraction. Alors, je veux vous montrer maintenant que mon spin peut faire la même chose. Ils peuvent se retourner et il peut être affairé avec soi-même. Alors pour ça, on va revenir à cette anisotropie que je vous ai déjà présentée. Donc, je vais vous montrer ici cette anisotropie à nouveau, qu'un axe facile de ce sens-là, un axe difficile vers vous. Donc, je définis un plan facile. Donc, si je veux retourner ce spin-là, de manière classique, le spin va préférer se tourner ici dans le plan. Ça coûte moins d'énergie que se retourner vers vous. Donc, maintenant, quantiquement, cette probabilité de se retourner soit à gauche ou soit à droite, tous les deux sont possibles, et cette probabilité peut interférer avec eux-mêmes, Et cette interférence peut être constructive ou destructive. Et M. Garg, il a montré que, dépendant de mon champ transverse que j'applique, cette interférence peut changer. Pourquoi ? Parce qu'une interférence dépend de longueur du chemin, soit à gauche, soit à droite. Ça dépend de cette longueur-là. Et avec le champ transverse que j'applique vers vous, eh bien, je peux changer mon plan facile. Je le shift vers vous. Et le chemin devient plus ou plus court. Donc, je peux, avec le champ transverse, changer l'interférence. Donc, je peux passer d'une interférence constructive à une interférence destructive. Et ça, on a mesuré un peu plus tard. Et en termes de ces splitting tunnels, on peut les mesurer. Avec le modèle que je vous montrais avec Landerzeina, on peut les mesurer. Je ne vais pas l'expliquer en détail. Mais on peut voir après que si on mesure la probabilité d'avoir cet effet tunnel en fonction du champ transverse, qu'on a une jolie oscillation. Et cette oscillation montre qu'on a de temps en temps une interférence constructive et de temps en temps destructive. Donc mon spin, ils peuvent vraiment tourner simultanément gauche et droite, et ces deux probabilités interfèrent avec eux-mêmes, et ça peut être constructif ou destructif. Donc vous voyez qu'une certaine richesse de cet aimant quantique par rapport à un aimant classique qui a bêtement seulement le retournement soit vers la gauche, soit vers dès qu'on dépasse le champ d'anisotropie. Donc, à ce stade, j'aimerais bien revenir à mon introduction où je dis que à gauche c'est classique, à droite c'est quantique. Maintenant, on a appris deux choses. On a appris que le spin est très important, le paramètre spin, et on a appris que le splitting tunnel, donc la quantité qu'on fait de mélange entre différents états, c'est très important. Et on a vu des formules qui ont montré une probabilité tunnel. Alors, si on regarde le splitting tunnel, le splitting tunnel, on peut le calculer de manière approximée. Il est tout simplement donné par le rapport de E sur D, où E et D sont des termes d'anisotropie, des constantes d'anisotropie dans l'hamiltonien en bas. Cet chiffre E sur D est toujours plus petit que 1. Si vous mettez un chiffre plus petit que 1 à la puissance, le résultat est encore plus petit que 1. Donc si je prends ce résultat à la puissance S, et vous voyez ici dans la formule, ici, on a S. Le delta vient plus petit, donc le splitting vient plus petit. Et maintenant, ce delta s'insère dans l'équation Landerzeina, ici, en carré, dans une exponentielle. Donc, vous voyez tout de suite que si vous augmentez le spin, votre probabilité effet tunnel décroît très rapidement. Donc, un spin 1, c'est bien quantique. Un spin 10, déjà, c'est un système quasiment tout le temps classique. De temps en temps, elle peut faire un effet tunnel, mais la plupart des temps, elle est classique. Et c'est pour ça qu'on appelle ces molécules aimants. Parce que la plupart des temps, ce sont des aimants qui stabilisent le spin. Mais si je passe maintenant un spin 100 ou 1000, c'est sûr que la probabilité d'effet tunnel disparaît complètement. Donc vous voyez que dès qu'on augmente le spin, on devient très, très rapidement classique. Et après, on a des aimants que vous connaissez dans la vie quotidienne. Donc à ce stade-là, on est au milieu de l'exposé. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. Donc, je voulais vous relaxer un petit peu pour attaquer la deuxième partie de l'exposé où je vais vous montrer un peu à quoi ça sert tout ça. Alors, pour relaxer un petit peu, je vais demander aux enfants quelques questions. Donc, tout d'abord, on va demander à Judith à quoi sert cet aimant. Alors, il est où, Judith? Ah, il est là. Donc, cet aimant peut servir pour attraper des clous. Bien. Alors, Elisabeth, à quoi sert cet objet-là? Eh oui, c'est un disque dur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire des jeux dans l'ordinateur? Ah, c'est pour jouer à l'ordinateur. Tu as raison. Clatis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces molécules aimants que je vous présentais? C'est aussi un jeu? C'est un jeu pour papa, pour qu'il puisse jouer en labo. Ah, c'est ça. Alors, j'espère que Gabriel, maintenant, va nous sauver de cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces molécules? Ah, on peut faire un ordinateur quantique. On peut faire des calculs quantiques avec ça. Eh oui, on est très certain que pendant la vie de Gabriel, qu'à un certain stade, on va utiliser ce genre de choses pour faire des choses utiles. Donc, à ces stades, c'est sûr que c'est encore un peu de jeu en laboratoire, mais c'est sûr que par la suite, on va essayer d'utiliser ça réellement. Et je vais, par la suite, dans la deuxième partie de cet exposé, je vais essayer de vous montrer nos premiers pas très modestes d'aller vers un certain dispositif, comme un ordinateur quantique, où on peut calculer des choses beaucoup plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer. Donc, cette thématique qu'on va maintenant décrire, on appelle ça la spintronique moléculaire. Donc hier, vous avez eu une exposé d'Albert Fert qui expliquait la spintronique, qui est très appliquée. Donc nous, on appelle ça spintronique moléculaire parce qu'on utilise des molécules. Mais le fait d'utiliser des molécules, ce n'est pas la partie essentielle. Le fait que les molécules sont plus petites que ce qu'on utilise actuellement, ce n'est aussi pas très essentiel. Ce n'est pas un problème de taille. Mais la partie importante qu'on va essayer de dégager avec cette thématique, c'est qu'on veut faire des compensés électroniques qui sont gouvernés par la physique quantique, c'est-à-dire que ces choses marrantes comme interférences, on peut les utiliser pour faire quelque chose d'utile. Donc, le but de cette thématique, c'est justement de faire des compensés qui sont gouvernés par la physique quantique. Donc, par la suite, je vais vous montrer ça un petit peu. Mais tout d'abord, je vais résumer très rapidement pourquoi on utilise ces molécules aimants. La première raison, c'est qu'on connaît ces molécules aimants maintenant très bien. On a fait des études assez fondamentales sur ça depuis plus que 10 ans. Donc, on connaît beaucoup de molécules comme ça. On sait qu'on a des spins très petits. Le record actuel est autour de 40. Donc, on peut avoir des spins très grands avec ces molécules. Ces molécules sont très bien caractérisées. C'est-à-dire que c'est une molécule, un chimiste peut faire pile poil la même molécule millions de fois. C'est des structures très bien définies. Et on peut très bien caractériser ces systèmes-là. Donc, on connaît l'anisotropie magnétique de manière très parfaite. Ce qu'on ne connaît pas avec nanoparticules, parce que dépendant comment on fait des atomes à la surface, on n'a pas cette contrôle-là qu'on a avec une molécule. On peut introduire des spin orbites. Alors, je ne vais pas parler de spin orbites. Je réfère à nouveau à l'exposé de Dominique Givor, mais ça peut donner une certaine richesse, les spin orbites. Les spins nucléaires sont intéressants. Je vais vous montrer un petit peu les propriétés quantiques, l'effet tunnel, l'interférence. La cohérence est très importante, je n'ai pas trop parlé. On peut mesurer la cohérence du système quantique avec deux chiffres, les T1 qui donnent la stabilité de rester dans un certain état. Et dans certaines molécules, on peut avoir des stabilités pendant des années. Et les T2, ça donne le temps que le système met pour perdre la phase quantique. La phase, c'est la partie importante pour les calculs quantiques plus tard. Donc, dans ce cas-là, il y a des systèmes qui perdent la phase après des microsecondes et parfois jusqu'aux millisecondes. Donc, c'est des systèmes très intéressants pour l'utiliser dans cette recherche. On peut interconnecter ces molécules. Donc, les chimistes peuvent ajouter les ligands, les connecter ensemble à différentes manières. On peut changer cette couplage entre les différentes molécules avec la lumière. Et là, il y a certains axes que, par exemple, Michel Verdaguer a commencé à faire où on peut coupler, découpler deux molécules. Et, très important, on peut changer l'extérieur de la molécule. C'est-à-dire qu'on peut prendre une molécule avec certaines propriétés et maintenant, les chimistes peuvent accrocher des ligands petits comme au milieu, mais aussi des ligands très, très longs. Par exemple, ici, cet objet ici en bas. Ici, vous voyez, ça a une sorte de cheveux qui sont accrochés à cette molécule. Donc, dépendant comment vous voulez fabriquer votre dispositif, eh bien, vous pouvez ajouter des ligands comme vous voulez pour faciliter la fabrication. Donc, on pense que ces systèmes sont très, très bien pour cette spintronique moléculaire. Par la suite, je vais vous montrer deux familles de dispositifs qu'on est en train de fabriquer. Le tout premier dispositif est montré ici, c'est de style transistor. Donc, on prend une molécule aimant et on met des pinces crocodiles au-dessus pour envoyer un courant à travers la molécule. Donc, on a une source, un train. Et après, on met une autre électrode au-dessous de la molécule pour changer le potentiel. Et dépendant de ça, on peut changer le courant à travers la molécule. Donc, vous voyez qu'en principe, c'est très simple. En pratique, ce n'est pas si simple parce que la molécule est minuscule et mettre des pinces crocodiles, ce n'est pas si simple. Donc, on fabrique ça. Donc, comment on fait ces pinces de crocodile pour une molécule? Eh bien, il y a différentes techniques que les chercheurs ont développées dans les années précédentes. Je vous montre une technique qui est assez facile à avoir. Tout d'abord, on va fabriquer les pinces de crocodile. Alors, les pinces de crocodile, on les fabrique avec une lithographie électronique. On peut faire des structures jusqu'à quelques dizaines de nanomètres. Donc, vous voyez sur cette image à droite en haut, qui est orange là, vous voyez deux doigts. Ces deux doigts jaunes, c'est des électrodes en or qui étaient faites par lithographie électronique. Ces deux doigts là ne se touchent pas, mais en fond, vous voyez un petit pont qui connecte ces deux doigts. Maintenant, si vous regardez ces deux doigts là de haut, vous voyez l'image en bas. On voit un peu les deux doigts arriver, et après on voit que la partie en bas qui fait la connexion entre les deux doigts. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va envoyer une courant à travers cette petite pont, cette petite jonction, et on va augmenter la densité du courant jusqu'au moment où la jonction s'ouvre. Alors j'ai apporté une image, pour un petit film qui vous montre un peu ce qui se passe. Si on fait ça. Donc, ce que vous voyez là maintenant, au milieu de l'image, c'est seulement la toute petite zone centrale qui connecte les deux doigts. Donc, on envoie un courant ici. Donc, les électrons circulent ici de droite vers la gauche. Et vous voyez que la jonction réduit en section. Et qu'est-ce qui se passe en fait? La densité du courant est tellement forte qu'il commence à pousser des atomes. Ça heurte, les électrons passent, ils heurtent les atomes et ils migrent. Ça appelle ça une migration. Une électromigration, et jusqu'au moment ça s'ouvre. Donc, en fin de ce film, vous avez vu à gauche que ça s'ouvre. Et tout l'or qui était au début, se trouve maintenant à gauche. Donc, une fois on a fait comme ça un tout petit gap, donc on peut faire des gaps de l'ordre de grandeur de 1 nanomètre avec cette technique-là, il faut mettre la molécule. Donc, à nouveau, je vais vous montrer seulement la méthode la plus simple. Donc la méthode la plus simple, c'est un peu statistique. C'est-à-dire qu'on fait cette petite pont, on met des molécules au-dessus. Ce sont trop petits pour le voir, donc j'ai mis un peu des étoiles rouges là. Et après, on fait cette électromigration. Et ce qu'on espère, que une fois la jonction s'ouvre, qu'on a une molécule comme ça qui tombe dans le champ, dans la jonction, dans le petit gap qu'on fait. Et ça, cette probabilité n'est pas si faible parce qu'il y a des choix électriques très forts qui s'établissent au moment où ça s'ouvre ou qui attrapent un peu une molécule. Donc, on peut avoir un taux de succès de 10% à peu près. Donc, avec ça, on peut attraper des molécules. Donc, c'est une technique très simple. On travaille sur des techniques plus élaborées que je ne vais pas présenter par la suite. Avec cette technique-là, d'autres chercheurs ont déjà fait pas mal d'études, en particulier à Cornell, Delft, Harvard et Berkeley, ils ont déjà utilisé cette technique-là depuis quelques années, où ils ont publié certaines choses, et récemment, ils ont même commencé de faire ça avec des molécules aimants. Donc, les Français ont juste commencé un peu, il y a 2 ans à peu près, on a différents groupes en Grenoble, en France qui ont commencé. Et je vais vous montrer très rapidement ce qu'on a déjà fait à Grenoble. Mais avant que je vous montre ça, je dois vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment les électrons vont passer maintenant, qu'est-ce qu'on va vraiment mesurer. Alors, il faut qu'on fasse à nouveau une approximation, c'est-à-dire que les molécules avec les électrodes, on va les approximer par l'image qui est à droite. Alors, l'image à droite, c'est ce qu'on appelle une boîte quantique. Une boîte quantique, c'est une structure assez petite, tellement petite pour qu'il y ait des niveaux d'énergie très discrets. Et ces niveaux d'énergie très discrets sont remplis avec des électrons jusqu'à une certaine hauteur, dépendant du nombre des électrons dans la structure. À gauche et à droite de cette boîte qui fait des niveaux, vous voyez deux carrés jaunes. Ça, c'est des électrodes. Donc, les électrodes sont caractérisées par un continuum d'énergie. Donc, le jaune, c'est un continuum d'énergie. Et cette énergie ces niveaux sont remplis jusqu'à l'énergie fermée. Donc, ça, c'est notre modèle. Et maintenant, si vous, si en général vous connectez comme ça une boîte quantique, donc une petite molécule, les électrons ne peuvent pas passer à travers parce qu'il y a pas de niveau d'énergie disponible au niveau fermé. Maintenant, on a la grille au-dessous qui nous permet de changer les niveaux d'énergie. Donc on peut le shifter vers le haut ou vers le bas. Et dès qu'on a un niveau d'énergie de la boîte qui est en résonance avec l'énergie Fermi, on peut passer un électron sur la molécule. Et après, une fois la molécule au-dessus, elle peut soit continuer, soit revenir. Si en plus, on applique une certaine polarisation, eh bien, l'électron va passer à travers la molécule. Donc si on fait maintenant un graphique qui est montré ici à gauche, avec toutes ces couleurs rouge et bleu, ça c'est une mesure de conductance d'une telle molécule en fonction de la grille et en fonction de mon train source, mon tension train source. Donc vous voyez plein de structures que je ne vais pas expliquer, mais la partie importante c'est les diamants que vous voyez en centre. Si vous êtes en bas de cette image, on n'a pas d'électrons sur la molécule. Si vous passez dans le premier diamant qui est juste au-dessus, on a ajouté un électron sur les molécules, après 2, 3, jusqu'à 12. Donc comme ça, on peut ajouter les électrons. Donc ça, c'est un peu la base de cette électronique moléculaire qu'il faut faire. Et je vous montre seulement un résultat qu'on a fait récemment, où on a pris une C60, donc un petit cage de carbone, et on a mis ça dans cette gap. Et on a mis 2 électrons sur les C60. Et après, on a montré qu'avec la grille, on pouvait coupler ces 2 électrons soit en manière antiferromagnétique, donc comme vous voyez à gauche, donc un spin vers le haut, un spin vers le bas, donc ça se fait une spin zéro, pas d'entropie. Ou, si on change un peu la grille, on pouvait coupler les 2 spins en manière ferromagnétique, donc alignée. Donc ça se fait une spin 1 après. Et ça, on a pu montrer que ça se change avec la grille. Et on a fait une étude très particulière qu'à la transition entre ces deux états-là, on a pu mettre en évidence une transition de phase quantique, quelque chose qui est très sexy pour les théoriciens. Mais je ne vais pas vous l'expliquer. Maintenant, par la suite, ça, c'était la molécule nue, le C60 nu. Maintenant, on peut ajouter un spin au milieu. Par exemple, on peut mettre un azote au milieu. L'azote a un spin 3,5. Donc après, on a les électrons qu'on ajoute sur la boîte et en plus, le spin intrinsèque dedans. On peut mettre des terres rares dedans, on peut faire plein de choses qu'on peut mettre dans les cages, mais on peut aussi prendre ces molécules que je vous ai déjà montrées. Donc, et après, on peut mettre des pinces de crocodile magnétique, etc. Donc on peut faire plein de différentes choses. Donc ça, c'est l'état de ce dispositif à ce stade. Donc ce dispositif est très intéressant, on peut le pousser assez loin, mais il y a un désavantage majeur. J'ai dit au début que toute cette affaire, on fait parce qu'on cherche à avoir un dispositif qui montre les propriétés quantiques. Alors vous savez bien que un système quantique est très sensible en observateur. Dès qu'on observe un système quantique, il a tendance de se condenser dans un état ou dans un autre état. Autrement dit, que les électrodes que j'ai mis sur mon molécule ils peuvent déranger mon système quantique tellement fortement qu'il va plus se trop comporter quantiquement. Donc, ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, pour ça, on travaille sur un deuxième système où on ne met pas les électrodes directement sur les molécules. On envoie plutôt le courant à travers un conducteur, par exemple nanotube de carbone. Donc on a un transistor moléculaire avec le nanotube de carbone, avec la grille, source, un train. Et à ça, on couple notre système magnétique. Alors on peut imaginer différents couplages. On peut avoir un couplage dipolaire entre les électrons dans le nanotube et les molécules. On peut avoir un couplage d'échange, si on échange des molécules, des électrons entre la molécule et les nanotubes de carbone. On peut avoir un couplage électrostatique et on peut aussi avoir un couplage du flux. C'est-à-dire que le flux magnétique, les lignes du flux, quelque part, ils se couplent avec les détecteurs. Et pour ça, je vais vous montrer très rapidement un détecteur qu'on a fait de ce style-là qui mesure le flux. Donc cet détecteur, on appelle NanoSquid. En fait, c'est un détecteur qui a 2 jonctions avec un nanotube de carbone. Et sur un des 2 jonctions, on va mettre après une molécule. Donc ce détecteur est passé sur le principe qu'on a développé avec les microsquids. Michel Verdac l'a mentionné un petit peu dans l'introduction. Donc cette technique microsquid, on a utilisé pour étudier des différentes nanoparticules dans le passé. Mais si on veut coupler maintenant, ou si on veut mesurer une petite molécule avec ces détecteurs, ce n'était pas si facile parce que les lignes de flux se couplent mal avec ces détecteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a modifié les détecteurs, on a fait des jonctions très très fines, c'est-à-dire on a mis un nanotube de carbone dans cette jonction, et après, on peut arriver à avoir un bon couplage avec les détecteurs. Donc, la recette pour le faire, c'est très long. Je vous donne pour seulement pour l'information. Si vous voulez relire ça plus tard sur l'internet, c'est compliqué à faire. On peut mesurer la sensibilité de ce détecteur. Je ne vais pas vous expliquer ça comment on le fait, mais le chiffre important, c'est le chiffre à droite en bas. C'est 10 puissance 5 phi 0. Donc phi 0, c'est une quantum de flux. Donc on peut mesurer un 10 puissance moins 5 d'une quantum de flux avec ce détecteur. Maintenant, ce flux ne vous parle pas, mais on peut le comparer par rapport au signal qu'on s'attend à trouver. Si on met cette molécule sur le détecteur, eh bien, on peut calculer ça et on trouve que pour un spin 10, par exemple, on trouve un flux net qui peut être mesuré par ce détecteur qui est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 4, moins 4 phi 0. Donc, vous voyez que notre sensibilité est suffisante normalement de mesurer ces molécules qu'on ajoute sur les détecteurs. Et si vous savez qu'on peut aussi améliorer cette détection, vous devrez être convaincu qu'en principe, ce détecteur devrait être capable de mesurer une seule molécule. Alors, je ne peux pas encore vous montrer qu'il est fait réellement, parce que faire les détecteurs, c'est une chose, et après, il faut mettre la molécule. Dans la jonction, on l'a mise un peu comme ça, avec des statistiques, etc. Donc, pour les nanotubes de carbone, maintenant, on va faire ça un peu plus professionnel, avec les chimistes, qui peuvent fonctionnaliser ces molécules avec des ligands particuliers qui aiment de s'accrocher sur un nanotube de carbone. Donc, si on modifie cette molécule de cette manière-là, eh bien, on peut le mettre sur le détecteur. Donc, ça se présente de cette manière-là. À gauche, vous voyez la fabrication de détecteur. Après, vous mettez le détecteur dans une solution qui contient ces molécules. Vous attendez un certain temps. Et après, on a une certaine probabilité que la molécule s'accroche sur le nanotube de carbone. Et ça marche déjà assez bien. Sur cette image en haut, vous voyez un nanotube de carbone mesuré par un microscope à AFM. Et après, on fait cette procédure de fonctionnaliser, c'est-à-dire mettre des molécules. Et vous voyez que sur cette serpentin, vous voyez des taches blancs qui apparaissent. Et ça sont des molécules qui s'accrochent de plus en plus. Donc ça, c'est seulement pour vous montrer qu'en principe, on sait faire ça. Actuellement, on est en train de faire ça sur les détecteurs. Mais comme j'ai dit, je ne peux pas encore montrer que ça marche. Mais on espère bientôt. On peut aussi mettre les molécules dans les nanotubes de carbone. Donc pour ça, on peut le remplir. Donc il y a différentes techniques qui permettent de le remplir, soit avec des métaux ou d'autres choses, des liquides, ou avec des molécules. Et ici, je vous montre un travail qui était fait à Toulouse, en collaboration avec nous, où un nanotube de carbone était rempli avec un sel de cobalt. Et après réduction de cobalt, de cette sel, on arrive en cobalt, et donc on arrive à un nanotube de carbone avec des petites îles, qui sont des tout petites nanoparticules de cobalt, qui sont typiquement une centaine d'atomes. Et ces structures-là, on peut déjà mesurer. Je ne vais pas insister en détail, mais la figure maintenant à droite, avec les jolies couleurs rouges, vous comprenez maintenant, parce que vous voyez tout de suite que ceci ressemble à l'astéroïde de Stoner-Wolfhard que je vous avais expliqué au début. Donc, c'est une manifestation qu'on peut mesurer ces petites îles qui sont dans un nanotube de carbone. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a démarré ce projet de spintronique moléculaire. C'est un projet qui va durer quelques années. On espère aller très loin. On espère aller jusqu'à l'application. Et on espère de découvrir des choses qu'on, à ces stades, on n'imagine même pas. J'aimerais bien remercier beaucoup de gens. Tout d'abord, mon équipe, que je mentionne ici en haut. C'est une équipe assez récente qui a été créée il y a une dizaine d'années, il y a deux ans, avec la fondation de l'Institut Nel. On a des collaborations avec des théoriciens à Grenoble et ailleurs. On a beaucoup d'ITA, donc des ingénieurs qui nous aident pour les expériences. Je aimerais bien remercier Jean-Pierre Clessieux qui a fait cette premier détecteur de nanosquid qui nous a permis de faire pas mal de physique, que je ne vais pas mentionner. Il a aussi fait ses nanotubes remplis avec du cobalt. Et j'aimerais bien remercier beaucoup de chimistes, en fait, dans ces domaines des molécules aimants. Il y a beaucoup plus de chimistes que de physiciens. Donc, les physiciens sont donc en espèce rare. Donc, on collabore avec beaucoup de chimistes. Et je l'ai classé ici en termes de nombre de publications qu'on a fait avec ces chimistes. Donc, vous voyez qu'on a déjà pas mal travaillé les dernières années. Et enfin, il faut que je remercie, bien sûr, aussi les différentes sources de financement qui nous a permis de faire la recherche jusqu'à ce stade et qui nous va permettre de payer la recherche par la suite, on espère. Merci pour votre attention.
Voilà. Merci Wolfgang. On voyait donc que la recherche en nanophysique implique énormément de collaboration et ce n'est pas parce qu'on travaille vers le plus en plus petit que c'est de moins en moins complexe. Merci Wolfgang. Alors s'il y a des questions, nous allons maintenant passer au jeu des questions et des réponses. Nous avons des micro-baladeurs, oui, ici en haut. Allons-y, le monsieur au pull rouge.
Oui, bonjour monsieur. Donc, vous avez souligné tout à l'heure certaines expériences de captation, enfin, consistant à attraper une sorte de molécule, le spin, par diverses interactions condensées d'énergie. Est-ce que certaines expériences ont été faites par interaction, non pas de particules, mais avec des ondes?
Avec des ondes. Alors, je n'ai pas bien compris la question. Vous parlez de l'expérience où on met la molécule dans les gaps, pour l'attraper dans les gaps, ou vous parlez...
L'expérience de captation de la molécule.
Voilà, donc cette expérience-là, ça se fait...
Par interaction particule, si certaines expériences ont été faites avec des ondes.
Donc, on n'a pas fait des expériences avec des ondes. Ces expériences sont faites en général dans le vide. Donc, on a des vides autour du système. Et ça se fait sur un substrat. Donc, d'un côté, il est vide, donc rien. Et on a les détecteurs, on envoie le courant au travers. Et après, cette courant va chauffer un peu. Donc, bien sûr, il y a des ondes, des phonons, qui vont aider de pousser un peu les molécules qui l'activent un peu pour pousser et pour trouver les gaps. Donc il y a d'un côté les champs électriques qui s'établissent dans les gaps, qui attirent un peu les molécules, et d'autre côté on a un certain apport de chaleur qui fait des ondes de phonons qui aident les molécules de se balader et de rentrer dans la jonction.
Merci. D'autres questions? Oui, là-bas, à droite.
Alors, bonsoir. Moi, j'ai une question plus technique, à savoir quand est-ce que les nouveaux calculateurs vont arriver, les calculateurs donc nanoscopiques vont arriver pour le plus grand nombre d'entre nous, tout simplement. Merci.
Donc ça, c'est bien sûr une question très difficile à répondre à ce stade. Donc hier, vous avez eu une exposé d'Albert Fert qui vous avait parlé d'une science de spintronique qui est très proche d'une application. C'est-à-dire qu'une grande partie est déjà appliquée dans votre ordinateur, mais après, il a parlé certainement des idées qui vont plus loin, qui ne sont pas encore appliquées. Donc ça, c'est une recherche qui correspond typiquement aux prochains 5 ans. Alors, ce que j'essaie de décrire ici, c'était plutôt une recherche qui est à l'échelle de Gabriel. Donc, ça veut dire que dans les prochains 10 ans, 20 ans, ça pouvait rentrer dans les marchés. Donc, c'est à ce stade ce qu'on appelle la physique fondamentale. Mais bon, il y a différentes sortes de chercheurs. Seulement pour faire un petit rappel, par exemple, Albert Fert, il a fait son découvert il y a une vingtaine d'années. Et au moment où il a fait cette recherche fondamentale à l'époque, il n'a pas du tout pensé en fait que maintenant on utilise cette découverte dans un ordinateur. Donc, de ce style-là, c'est notre recherche, il est beaucoup plus fondamental à ce stade. Donc, je ne peux vraiment pas dire que si ça prend 10 ans ou 20 ans ou peut-être 30 ans avant que ce genre d'application va être pour la vie quotidienne.
Merci. D'autres questions? Oui, ici en bas, à gauche.
Que j'ai bien compris en pensant que ces effets se déroulent simplement à très basse température.
Alors à ce stade-là, la physique quantique, souvent, c'est un phénomène qui est assez petit. Et dès qu'on a une température ambiante, c'est les effets thermiques qui cachent en fait les phénomènes quantiques. Donc pour les observer à ce stade, on refroidit notre système pour se débarrasser de toute cette activation thermique. Maintenant, la question c'est, maintenant, si on découvre quelque chose qu'on dit qui est intéressant, est-ce qu'à un certain stade, on pouvait utiliser la même chose ambiante? Alors, il y a des idées qui sont très similaires avec des spins, où on peut faire cette sorte de calcul quantique déjà à ambiante, à 300 Kelvin. C'est plutôt avec des lasers, c'est pas avec des électrodes qu'on met, c'est plutôt avec un laser, on excite des centres dans un diamant, par exemple. On peut doper des diamants avec de l'azote. Et il y a des gens qui font ce genre de choses à température ambiante. Après, la question c'est, est-ce que par la suite, dans quelques années, une dizaine, vingtaine d'années, si on a un ordinateur quantique, est-ce que ce serait nécessaire de le refroidir? Ou est-ce que refroidir, c'est peut-être le problème mineur? Alors, je peux vous dire, à ce stade, c'est refroidir, c'est un problème mineur. Si vous pouvez faire à ce stade un ordinateur quantique qui marche à froid, vous le vendrez tout de suite, parce qu'un tel ordinateur ne va pas être un facteur 10, un facteur 100 mieux que l'ordinateur qu'on connaît actuellement. C'est un million, un milliard, ou même plus, fois mieux. Donc, il y aura tout de suite des compagnies qui vont proposer de le installer chez eux pour faire un certain calcul, et on se connecte à travers Internet sur cette machine pour chercher sa réponse. Donc c'est sûr que la partie refroidir, que les gens ont tendance de sortir comme argument que ce genre de choses ne peuvent pas s'appliquer, en fait, ce n'est pas un vrai problème. Il y a des problèmes beaucoup plus de physique fondamentale qui vont peut-être nous gêner par la suite de faire un ordinateur quantique. Par exemple, il faut préserver la phase de beaucoup de qubits. En même temps, il y a certaines choses qu'on, à ces stades, on ne sait pas si un jour on va les maîtriser. Mais le fait de refroidir, ce n'est pas vraiment un problème.
D'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, je vous donne le titre de la conférence de demain. C'est M. Claude Fermont qui la donnera. Et ça s'intitulera « Capteur magnétique de la boussole à l'imagerie du cerveau par de techniques complètement différentes de celles que nous avons vues l'autre jour avec M. Denis Le Billan ».